From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur familial de Sandy et de Draper en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Henry B. Eyring,
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et aux nombreux autres qui sont réunis dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur familial de Sandy et de Draper en Utah, sous la direction de Timothy Workman, avec Linda Margaret à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Vrais disciples du Seigneur ». Ensuite, Claudio De Zivic, des 70, fera la prière d'ouverture.
Dear Father in Heaven,
Notre cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants de cette occasion de nous réunir dans cette session de conférence générale sous la direction de ton prophète, frère Thomas Edmondson. Nous demandons que tu le bénisses, lui et sa femme, durant cette période de la vie. Nous te remercions pour président Ehring, président Hushdorf et tous ceux qui leur sont associés, les apôtres. Nous te demandons de bénir tes missionnaires à plein temps, tes membres et tous ceux qui servent à travers le monde. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire. Nous te demandons de bénir ceux qui ont besoin de toi, qui souffrent pour différentes raisons. Nous te demandons de pouvoir être des instruments entre tes mains pour aller au secours de ceux qui ont besoin de nous, que nous puissions réaliser que ceci est le seul chemin pour retourner en ta présence. Nous te demandons que ton esprit nous accompagne durant cette session, quel que soit l'endroit où nous sommes rassemblés dans le monde, que nous puissions savoir les changements que nous devons décider dans notre vie afin de mieux suivre tes commandements. Bénis-nous de ne pas oublier les alliances que nous avons contractées à notre baptême. Nous t'aimons, Père Céleste. Nous voulons retourner en ta présence un jour. Nous prions au nom sacré de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
The choir just sang.
Le chœur vient de chanter. Beautiful Zion built above. Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant les officiers généraux et les 70 d'interrégion pour un vote de soutien. Après quoi, nous entendrons Robert D. Hales et Quentin L. Cook du Collège des 12 apôtres. Après leur discours, Richard C. Edgley, de l'Épiscopat président, nous adressera la parole. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence, et Dieter Friedrich Uhrdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever Spencer J. Condy, Bruce C. Affen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace et Lance B. Wickham de leur appel de membres du premier collège des 70 et de les désigner comme autorité générale émérite. Il nous est également proposé de relever Spencer V. Jones et Wolfgang H. Paul comme membres du deuxième collège des 70. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever Fernando Maluenda et José L. Torres comme 70 interrégions. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour l'excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Wenceslan H. Sweck comme 70 d'interrégion. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales 70 d'interrégion et président général d'auxiliaire actuel. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez les manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime. Merci, frères et sœurs, de votre soutien, de votre foi, de votre dévouement et de vos prières. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre frère Hales.
Récemment, j'ai reçu une lettre d'un ami qui est depuis plus de 50 ans et qui n'est pas membre de notre Église. Je lui avais envoyé de la lecture sur l'Évangile, à laquelle il a répondu. Au début, j'ai eu du mal à comprendre le sens du jargon mormon typique comme libre arbitre. Peut-être qu'un glossaire d'une page serait utile. J'étais surpris qu'il ne comprenne pas ce que libre arbitre veut dire. J'ai consulté un dictionnaire en ligne. Aucun des 10 définitions et usages du mot libre-arbitre n'exprimait l'idée de faire le choix d'agir. nous enseignons que le libre arbitre est la capacité et le droit que Dieu nous donne d'agir par nous-mêmes et non d'être contraints. Le libre arbitre, c'est agir en étant responsable de nos actions. Notre libre arbitre est essentiel au plan du salut. Grâce à lui, nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable. Les paroles d'un cantique familier nous enseignent clairement ce principe. Sachez que chacun peut choisir et dessiner son avenir. Car Jésus n'a jamais voulu forcer les hommes au salut. Pour répondre à la question de mon ami et aux questions de femmes et d'hommes de bien de partout, je vais vous parler davantage de ce que nous savons de la signification du libre arbitre. Avant que nous venions sur terre, notre Père Céleste a présenté son plan du salut, un plan qui prévoyait que nous viendrions sur terre pour recevoir un corps, choisir entre le bien et le mal, et progresser pour devenir comme lui et vivre avec lui pour toujours. Notre libre arbitre, notre faculté de choisir et d'agir par nous-mêmes, était un élément essentiel de ce plan. Sans le libre arbitre, il ne nous serait pas possible de faire de bons choix et de progresser. Cependant, avec le libre arbitre, nous pouvons faire de mauvais choix, commettre des péchés et perdre la possibilité d'être à nouveau avec notre Père Céleste. C'est pour cette raison qu'a été donné un Sauveur pour souffrir pour nos péchés et nous racheter si nous nous repentons. Grâce à son expiation infinie, il a réalisé le plan de la miséricorde pour apaiser les exigences de la justice. Après que notre Père Céleste a présenté son plan, Lucifer s'est avancé en disant « Envoie-moi, et je rachèterai toute l'humanité, de sorte que pas une seule âme ne sera perdue. C'est pourquoi, donne-moi ton honneur. » Notre Père a rejeté ce plan parce qu'il nous refusait notre libre arbitre. C'était un plan de rébellion. Puis Jésus-Christ, le Fils bien-aimé et l'élu de notre Père Céleste depuis le commencement, a exercé son libre arbitre pour dire « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Il est devenu notre Sauveur, le Sauveur du monde. À cause de la rébellion de Lucifer, un grand conflit spirituel a eu lieu. Chaque enfant de notre Père Céleste a eu l'occasion d'exercer le libre arbitre qu'il avait reçu de lui. Nous avons choisi d'avoir foi au Sauveur Jésus-Christ, d'aller à lui, de le suivre et d'accepter le plan que notre Père Céleste a présenté pour notre bien. Mais un tiers des enfants de notre Père Céleste n'a pas eu la foi de suivre le Sauveur et a choisi de suivre à la place Lucifer ou Satan. Alors Dieu a déclaré, « C'est pourquoi, parce que Satan se rebellait contre moi, qu'il cherchait à détruire le libre arbitre de l'homme, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais donné, je le fis précipiter. Ceux qui ont suivi Satan ont perdu la possibilité de recevoir un corps mortel, de vivre sur terre et de progresser. » À cause de la façon dont ils ont exercé leur libre arbitre, ils l'ont perdu. Aujourd'hui, le seul pouvoir qu'ont Satan et ceux qui l'ont suivi est celui de nous tenter et de nous éprouver. Leur seule joie est de nous rendre malheureux comme eux. Leur seul bonheur vient de notre désobéissance au commandement du Seigneur. Mais réfléchissez à ceci. Dans notre état prémortel, nous avons choisi de suivre le Sauveur Jésus-Christ. Et parce que nous l'avons fait, nous avons été autorisés à venir sur terre. Je témoigne qu'en faisant le même choix de suivre le Sauveur maintenant, ici, sur la terre, nous obtiendrons des bénédictions encore plus grandes dans les éternités. Mais que ce soit bien clair, nous devons continuer de choisir de suivre le Sauveur. Il y va de l'éternité et notre libre arbitre est essentiel. Tout au long de sa vie, notre Sauveur nous a montré comment utiliser notre libre arbitre. À Jérusalem, alors qu'il était encore enfant, il a délibérément choisi de s'occuper des affaires de son Père. Pendant son ministère, il a choisi par obéissance de faire la volonté de son Père. Au jardin de Gethsémané, il a choisi de souffrir toutes choses, disant « Que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne ». Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Sur la croix, il a choisi d'aimer ses ennemis et a fait cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, afin qu'il puisse montrer qu'il choisissait seul, il a été laissé à lui-même. Il dit alors, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, il a exercé son libre arbitre d'agir, endurant jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il puisse dire, « Tout est accompli. » Bien qu'il était tenté comme nous en toutes choses, à chaque choix et à chaque action, il a exercé le libre arbitre d'être notre Sauveur, pour briser pour nous les chaînes du péché et de la mort. Et par sa vie parfaite, il nous a enseigné que, quand nous choisissons de faire la volonté de notre Père Céleste, notre libre arbitre est conservé, nos possibilités sont multipliées et nous progressons. On trouve des témoignages de cette vérité partout dans les Écritures. Job avait tout perdu, mais il a choisi de rester fidèle et il a gagné les bénédictions éternelles de Dieu. Marie et Joseph ont choisi de suivre l'avertissement d'un ange de fuir en Égypte, et le Sauveur a eu la vie sauve. Joseph Smith a choisi de suivre les instructions de Moroni, et le rétablissement s'est déroulé comme il l'avait été prophétisé. Chaque fois que nous choisissons d'aller au Christ, de prendre son nom sur nous et de suivre ses serviteurs, nous progressons sur le chemin de la vie éternelle. Pendant notre voyage dans la condition mortelle, il est utile de nous souvenir que le contraire est vrai aussi. Quand nous ne respectons pas les commandements et l'inspiration du Saint-Esprit, nos possibilités se réduisent et notre capacité d'agir et de progresser diminue. Quand Caïn a ôté la vie à son frère parce qu'il aimait Satan plus que Dieu, sa progression spirituelle s'est arrêtée. Dans ma jeunesse, j'ai appris une leçon importante sur la façon dont nos actions peuvent limiter notre liberté. Un jour, mon père m'a chargé de vernir un parquet. J'avais choisi de commencer à la porte et continuer à l'intérieur de la pièce. Alors que j'avais presque terminé, je me suis rendu compte que je m'étais laissé aucune issue. Il n'y avait ni fenêtre, ni porte de l'autre côté. Je m'étais fourré dans une impasse. Je n'avais nulle part où aller. J'étais coincé. Chaque fois que nous désobéissons, nous nous ferons spirituellement dans une impasse et nous devenons captifs de nos choix. Bien que nous soyons coincés spirituellement, il y a toujours un moyen de revenir, comme le repentir, faire demi-tour et marcher sur un parquet fraîchement verni demande du travail, beaucoup de reponçage et de couches de finition. Ce n'est pas facile de retourner au Seigneur, mais cela en vaut la peine. En comprenant l'épreuve du repentir, nous apprécions les bénédictions du Saint-Esprit qui guide notre libre arbitre et notre Père Céleste qui nous donne des commandements, ce qui nous soutient et nous renforce quand nous les respectons. Nous comprenons aussi de quelle façon l'obéissance aux commandements protège finalement notre libre arbitre. Par exemple, quand nous suivons la parole de sagesse, nous échappons à la captivité d'une mauvaise santé et de la dépendance à des substances qui nous privent littéralement de notre faculté d'agir par nous-mêmes. En obéissant au conseil d'éviter les dettes ou de les régler maintenant, nous exerçons notre libre arbitre et obtenons la liberté d'utiliser les revenus dont nous disposons pour aider les autres et leur faire du bien. Quand nous suivons le conseil des prophètes de faire des soirées familiales, de prier et d'étudier les Écritures en famille, notre foyer devient une couveuse pour la croissance spirituelle de nos enfants. Nous leur y enseignons l'Évangile, rendons témoignage, exprimons notre amour et écoutons pendant qu'ils nous expriment leurs sentiments et nous racontent leurs expériences. Par nos choix et nos actions justes, nous les délivrons de l'obscurité en améliorant leur aptitude à marcher dans la lumière. Le monde nous enseigne de nombreux mensonges sur le libre arbitre. De nombreuses personnes pensent que nous devons manger, boire, nous réjouir, et que si nous sommes coupables, Dieu nous battra de quelques coups, et qu'à la fin nous serons sauvés dans le royaume de Dieu. D'autres personnes embrassent ce qui est profane et nient Dieu. Elles se persuadent qu'il n'y a pas d'opposition à toute chose, et qu'alors, tout ce qu'un homme fait n'est pas un crime. Cela détruit la sagesse de Dieu et ses desseins éternels. Contrairement aux enseignements profanes du monde, les Écritures nous enseignent que nous avons le libre arbitre, que le bon usage de notre libre arbitre change toujours les possibilités que nous avons et notre capacité d'agir en conséquence et de progresser éternellement. Par exemple, par l'intermédiaire du prophète Samuel, le Seigneur a donné un commandement clair au roi Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi. Écoute donc ce que te dit l'Éternel. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Mais Saül n'a pas obéi au commandement du Seigneur. Il a pratiqué ce que j'appelle l'obéissance sélective. Se reposant sur sa propre sagesse, il a épargné la vie du roi Agag et a ramené les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Le Seigneur a révélé cela au prophète Samuel et l'a envoyé destituer Saül de sa royauté. Quand le prophète est arrivé, Saül a déclaré « J'ai accompli le commandement du Seigneur ». Mais le prophète savait qu'il en était autrement et dit « Qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül s'est excusé en rejetant la faute sur d'autres, disant que son peuple avait gardé les animaux pour faire des sacrifices au Seigneur. Le prophète a répondu, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de ses commandements vaut mieux que la graisse des béliers. » Finalement, Saül a avoué, disant, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Parce que Saül n'avait pas obéi avec exactitude, parce qu'il avait choisi l'obéissance sélective, il a perdu la possibilité, la liberté d'être roi. Mes frères et sœurs, écoutons-nous avec exactitude la voix du Seigneur et de ses prophètes, ou comme Saül, pratiquons-nous une obéissance sélective en craignant les jugements des hommes? Je reconnais que nous commettons tous des fautes. Les Écritures nous enseignent, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous qui êtes captifs du passé, de mauvais choix, coincé dans une impasse où vous n'avez pas toutes les bénédictions accessibles grâce au juste exercice du libre arbitre, nous vous aimons. Revenez, sortez du coin sombre et entrez dans la lumière. Même si vous devez marcher sur un parquet fraîchement verni, cela en vaut la peine. Ayez l'assurance que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain, vous et moi inclus, peut-être sauvé en obéissant aux lois et ordonnances de l'Évangile. Alors qu'était venu pour lui le moment du sacrifice expiatoire, le Sauveur a fait sa grande prière sacerdotale et a parlé de chacun de nous en disant, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je témoigne solennellement qu'il vive. Quand nous exerçons notre libre arbitre en justice, nous les connaissons. Nous devenons davantage semblables à eux et nous nous préparons pour ce jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est notre Sauveur. Je prie pour que nous continuions de le suivre, lui et notre Père Céleste, comme nous l'avons fait au commencement. Faites au commencement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
I celebrated a birthday last month.
C'était mon anniversaire le mois dernier. À cette occasion, ma femme Marie m'a offert un CD de chants d'espérance et de foi, interprété par une chanteuse britannique célèbre du nom de Vera Lynn, qui a inspiré ses auditeurs pendant les années sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Ce cadeau de ma femme a une raison. Le bombardement de Londres de septembre 1940 a commencé la veille de ma naissance. Ma mère, qui écoutait le récit du bombardement de Londres à la radio dans sa chambre d'hôpital, a décidé de m'appeler du nom du journaliste de la radio, dont le prénom était Quentin. Vera Lynn, la chanteuse, a maintenant 93 ans. L'an dernier, certaines de ses chansons de l'époque de la guerre ont été réenregistrées et ont atteint immédiatement la tête des parades de Grande-Bretagne. Ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés se rappelleront des chansons telles que Les falaises blanches de Douvres. Une chanson intitulée « Quand la lumière se rallume dans le monde entier » m'a profondément touché. Elle m'a inspiré deux pensées. Premièrement, les paroles prophétiques d'un homme politique britannique. Partout en Europe, les lumières s'éteignent. Nous ne les verrons pas se rallumer à notre époque. Et deuxièmement, les bombardements sur les villes britanniques comme Londres. Pour rendre plus difficile le repérage des cibles aux bombardiers ennemis, il avait été décidé de procéder à des couvre-feux. On éteignait les lumières et on occultait les fenêtres. Cette chanson exprimait l'espoir, empreint d'optimisme, du retour de la liberté et de la lumière. Pour ceux d'entre nous qui comprennent le rôle du Sauveur et la lumière du Christ dans le combat continu du bien contre le mal, l'analogie entre cette guerre et l'affrontement moral actuel est clair. C'est grâce à la lumière du Christ que tout le genre humain peut discerner le bien du mal. La liberté et la lumière n'ont jamais été faciles à atteindre ou à conserver. Depuis la guerre dans les cieux, les forces du mal ont utilisé tous les moyens possibles pour détruire le libre arbitre et éteindre la lumière. L'assaut contre les principes moraux et la liberté de culte n'a jamais été aussi violent. Nous, saints des derniers jours, avons le devoir de faire de notre mieux pour préserver la lumière et pour protéger notre famille et la collectivité de cet assaut contre la moralité et la liberté de culte. La famille est constamment menacée par l'assaut des forces du mal qui semblent venir de toutes parts. Si notre premier effort doit être de rechercher la lumière et la vérité, il serait sage de protéger par couvre-feu notre foyer des bombes mortelles qui anéantissent la progression spirituelle. La pornographie en particulier est une arme de destruction massive de la moralité. Elle frappe en première ligne pour saper les valeurs morales. Certaines émissions télévisées et des sites internet sont tout aussi mortelles. Ces forces du mal privent le monde de lumière et d'espoir. La décadence est en train d'accélérer. Si nous n'occultons pas notre foyer et notre vie contre le mal, nous ne devons pas être étonnés si des explosions morales dévastatrices font voler en éclats la paix qui est la récompense d'une vie juste. Nous avons la responsabilité d'être dans le monde, mais pas du monde. En outre, nous devons accroître fortement notre pratique religieuse. La soirée familiale hebdomadaire, la prière familiale quotidienne et l'étude des Écritures sont essentielles. Nous devons introduire dans notre foyer ce qui est vertueux, aimable et qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Si nous faisons de notre foyer un endroit sacré qui nous protège du mal, nous serons protégés des conséquences néfastes prédites par les Écritures. En plus de protéger notre famille, nous devons être une source de lumière pour protéger notre collectivité. Le Sauveur a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On a dit de notre époque qu'elle était une époque d'abondance et de doute. La foi de base dans le pouvoir et l'autorité de Dieu est non seulement contestée, mais aussi dénigrée. Dans de telles circonstances, comment pouvons-nous soutenir les vraies valeurs d'une manière qui se répercute auprès des non-croyants et des indifférents et contribuer à freiner le glissement inexorable vers la violence et le mal? Cette question est d'une importance énorme. Pensez au prophète mormon et à l'angoisse qu'il a ressentie quand il a déclaré « Comment avez-vous pu rejeter ce Jésus qui se tenait les bras ouverts pour vous recevoir ?» Son angoisse était justifiée et il resta Moroni, son fils, pour narrer la triste histoire de la destruction de son peuple. Cela m'a rendu optimiste de côtoyer des personnes du monde entier et d'interagir avec elles. Je crois que la lumière et la vérité seront préservées à notre époque. Dans tous les pays, beaucoup de gens adorent Dieu et se sentent responsables de leur conduite devant lui. Certains observateurs pensent qu'il y a un véritable regain universel de foi. Nous, dirigeants de l'Église, avons rencontré des dirigeants d'autres confessions et avons constaté qu'il existe des valeurs morales de base communes qui transcendent les différents religieux et qui nous unissent dans nos aspirations à une société meilleure. Nous trouvons aussi que la majorité des gens continuent à respecter les valeurs morales de base. Mais ne vous y trompez pas, il y a aussi des gens qui sont décidés à détruire la foi et à rejeter toute influence religieuse dans la société. D'autres personnes mauvaises exploitent, manipulent et démolissent la société par la drogue, la pornographie, l'exploitation sexuelle, la traite des êtres humains, le vol et les pratiques commerciales malhonnêtes. Ces personnes ont un pouvoir et une influence énormes, malgré leur nombre relativement restreint. Il y a toujours eu un combat permanent entre les personnes qui ont la foi et celles qui voudraient éradiquer la religion et Dieu de la vie publique. Actuellement, beaucoup de personnes influentes rejettent la conception morale du monde basée sur les valeurs judéo-chrétiennes. À leurs yeux, il n'y a aucun ordre moral objectif. Elles croient qu'on ne devrait pas accorder la priorité aux objectifs moraux. Et pourtant, la majorité des gens aspirent à être bons et respectables. La lumière du Christ, qui est distincte du Saint-Esprit, éclaire leur conscience. Nous savons par les Écritures que la lumière du Christ est l'Esprit qui donne la lumière à tout homme qui vient au monde. Cette lumière est donnée partout dans le monde. Boyd K. Packer a enseigné que c'est une source d'inspiration que chacun de nous possède en commun avec tous les autres membres de la famille humaine. C'est pourquoi beaucoup acceptent les valeurs morales, même quand elles sont fondées sur des convictions religieuses qu'ils ne soutiennent pas personnellement. Nous lisons dans Mosiah, dans le livre de Mormon, « Il n'arrive pas souvent que la voix du peuple désire quelque chose de contraire à ce qui est juste, mais il arrive souvent que la plus petite partie du peuple désire ce qui n'est pas juste. » Mosiah lance ensuite l'avertissement suivant. « Si le temps vient où la voix du peuple choisit l'iniquité, c'est à ce moment-là que les jugements de Dieu s'abattront sur vous. » Dans notre monde où l'injustice va croissant, il est essentiel que les valeurs fondées sur les croyances religieuses fassent partie de ce qui se dit en public. Les prises de position en matière de morale motivées par le sentiment religieux doivent se voir accorder un accès égal au domaine public. En vertu de la constitution de la plupart des pays, on ne peut pas accorder de préférence à une conscience religieuse, mais celle-ci ne doit pas non plus être ignorée. La foi est une réserve de lumière, de connaissances et de sagesse et une source énorme de bienfaits pour la société quand les fidèles s'engagent à se conduire conformément à la moralité parce qu'ils se sentent responsables devant Dieu. Le 13e article de foi commence ainsi. Nous croyons que nous devons être honnêtes. L'honnêteté est un principe fondé sur la croyance religieuse et est l'une des lois de base de Dieu. Il y a bien des années, quand j'exerçais le droit en Californie, un ami et client qui n'était pas membre de notre église est venu me voir et m'a montré avec beaucoup d'enthousiasme une lettre qu'il avait reçue d'un de nos évêques d'une paroisse voisine. L'évêque écrivait qu'un membre de l'assemblée, ancien employé de mon client, avait dérobé du matériel sur le lieu de travail de celui-ci et s'était justifié en se disant que ce matériel était du surplus. Mais après être devenu un saint des derniers jours engagé, s'efforçant de vivre Jésus-Christ, l'employé s'était rendu compte que ce qu'il avait fait était malhonnête. La lettre contenait une somme d'argent pour couvrir non seulement la valeur du matériel, mais aussi les intérêts. Mon client avait été impressionné par le fait que, par son clergé laïc, l'Église aidait cet homme dans son effort pour se réconcilier avec Dieu. Imaginez la lumière et la vérité que rayonne la valeur de l'honnêteté commune au monde judéo-chrétien. Imaginez l'impact sur la société si les jeunes ne trichaient pas dans leurs études, si les adultes étaient honnêtes sur leur lieu de travail et étaient fidèles à leur alliance du mariage. Pour nous, l'idée de l'honnêteté foncière est fondée dans la vie et les enseignements du Sauveur. C'est aussi une qualité précieuse dans beaucoup d'autres confessions et dans la littérature historique. Le poète Robert Burns a dit « Un homme honnête est l'œuvre la plus noble de Dieu ». Dans presque tous les cas, les gens qui ont la foi considèrent qu'ils ont la responsabilité devant Dieu d'être honnêtes. Voilà pourquoi cet homme de Californie se repentait d'avoir été malhonnête. L'an dernier, dans un discours d'une cérémonie de remise de diplôme universitaire, Clayton Christensen, professeur à Harvard et dirigeant dans l'Église, a raconté l'histoire vraie d'un collègue de travail d'un autre pays qui avait étudié la démocratie. Cet ami était surpris par l'importance capitale de la religion dans la démocratie. Il faisait la réflexion que dans les sociétés où les citoyens apprennent dès leur enfance à se sentir responsables devant Dieu d'être honnêtes et intègres, ils respectent des règles et des pratiques qui, même si on ne peut pas les imposer par la contrainte, soutiennent les idéaux démocratiques. Dans les sociétés où cela n'est pas vrai, il n'y aura jamais assez de policiers pour imposer une conduite honnête. Il est clair que les valeurs morales relatives à l'honnêteté peuvent jouer un rôle important dans l'apport de la lumière et de la vérité et dans l'amélioration de la société. Elles devraient être appréciées par les gens qui n'ont pas foi en Jésus-Christ. Un deuxième exemple de la façon dont la foi religieuse profite à la société et apporte de la lumière au monde réside dans le rôle joué par la religion pour que tous les enfants de Dieu soient traités comme frères et sœurs. Ces deux derniers siècles, beaucoup d'institutions basées sur la foi, parce qu'elles croyaient que tous les hommes étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et pour leur porter secours, ont été aux premières lignes pour tendre la main aux personnes qui étaient soumises à des conditions cruelles. William Wilberforce, grand homme d'État britannique, qui a œuvré pour rendre illégal le commerce d'esclaves en Grande-Bretagne, en est un excellent exemple. Le cantique touchant « Amazing Grace » et le film inspirant portant le même titre exprime ce que l'on ressentait au début du XIXe siècle et décrit son effort héroïque. Les efforts infatigables de Wilberforce ont été parmi les premières actions menées pour éliminer cette pratique terrible, oppressive, cruelle et vénale. Dans le cadre de cet effort, il s'est attelé avec d'autres dirigeants à réformer la moralité publique. Il croyait que l'enseignement et le gouvernement devaient avoir des bases morales. Sa vision de l'enrichissement moral et spirituel était sa raison de vivre. Qu'il défende l'institution du mariage, qu'il s'attaque aux pratiques de l'esclavagisme ou qu'il défende catégoriquement le jour de sabbat. Avec une grande énergie, il a contribué à mobiliser les dirigeants moraux et sociaux du pays dans la lutte nationale contre le vice. Au début de l'histoire de notre Église, la grande majorité de nos membres étaient contre l'esclavage. Cela, ainsi que nos convictions religieuses, a été l'une des raisons de l'hostilité et des émeutes violentes qu'ils ont subies et qui ont été jusqu'à l'ordre d'extermination lancé par le gouverneur Box au Missouri. En 1833, Joseph Smith a reçu la révélation suivante. Il n'est pas juste qu'un homme soit asservi à un autre. Notre engagement pour la liberté religieuse et le traitement de tous les gens en fils et filles de Dieu est au centre de notre doctrine. Ce ne sont là que deux exemples de la manière dont les valeurs basées sur la religion sous-tendent des principes qui sont une grande bénédiction pour la société. Il y en a beaucoup d'autres. Nous devons à la fois participer personnellement et soutenir les personnes qui ont de la force de caractère et de l'intégrité pour aider à remettre en place des valeurs morales qui seront une bénédiction pour toute la collectivité. Qu'il soit clair que toutes les voix doivent se faire entendre dans le domaine public. Ni les voix de la religion, ni celles du monde profane ne doivent être réduites au silence. De plus, nous ne devons pas nous attendre à ce que, parce que certaines de nos idées sont l'émanation de principes religieux, elles soient automatiquement acceptées ou aient la priorité. Mais il est tout aussi clair que ces idées et ces valeurs ont le droit d'être examinées selon leur mérite. Le fondement moral de notre doctrine peut être un phare pour le monde et peut être une force unificatrice pour la moralité et la foi en Jésus-Christ. Nous devons protéger notre famille et être en première ligne avec tous les gens de bonne volonté pour faire tout notre possible pour préserver la lumière, l'espoir et la moralité dans nos collectivités. Si nous appliquons et proclamons ces principes, nous suivrons Jésus-Christ, qui est la véritable lumière du monde. Nous pouvons être une force en faveur de la justice dans la préparation à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons ce beau jour où les cœurs libres chanteront lorsque les lumières se rallumeront dans le monde entier. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous vivons dans une des plus grandes dispensations de tous les temps, une époque où les prophètes d'autrefois ont attendu avec impatience qu'ils ont prophétisé, à laquelle ils aspiraient, je crois. Cependant, avec toutes les bénédictions célestes qui nous sont accordées, Satan est toujours très actif et nous sommes tous continuellement bombardés de messages contradictoires. L'ange Moroni avertit Joseph Smith, le jeune prophète, que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, et jamais l'accomplissement d'une prophétie n'a été plus évident. Le prophète a donné sa vie pour son témoignage, et les attaques se poursuivent de nos jours contre l'Église et même contre le Sauveur lui-même. L'existence du Sauveur, son sacrifice expiatoire et son application universelle à nous tous est contestée et souvent rejetée comme étant un mythe ou comme l'espoir sans fondement d'un esprit faible et sans instruction. En outre, la réalité du rétablissement de l'Évangile dans ces derniers jours continue d'être contestée. Le bombardement continuel de tels messages peut provoquer la confusion, le doute et le pessimisme, chacun d'entre eux s'attaquant aux vérités fondamentales auxquelles nous croyons, notre foi en Dieu et notre espérance dans l'avenir. Cela peut être la réalité de notre monde, mais nous pouvons encore choisir la manière dont nous y réagissons. Lorsque notre doctrine et nos croyances sacrées sont mises en doute, c'est pour nous l'occasion d'apprendre à connaître Dieu de manière plus personnelle et plus intime. C'est pour nous l'occasion de choisir. À cause des conflits et des difficultés que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui, je souhaiterais proposer un choix unique, un choix de paix et de protection, un choix qui convient à tous. Ce choix, c'est la foi. Soyez conscient de ce que la foi n'est pas un don gratuit offert sans nécessité de réflexion, de désir ou d'effort. Elle ne parvient pas comme la rosée tombée du ciel. Le Sauveur a dit « Venez à moi et frappez et l'on vous ouvrira ». Ce sont des verbes d'action. Venez, frappez et ce sont des choix. Alors je dis « Choisissez la foi ». Choisissez la foi au lieu du doute. Choisissez la foi de préférence à la peur. Choisissez la foi au lieu de l'inconnu et au lieu de l'invisible. Et choisissez la foi au lieu du pessimisme. L'exposé classique d'Alma sur la foi, qui se trouve au chapitre 32 d'Alma dans le livre de Mormon, présente une série de choix qui garantissent le développement et la préservation de notre foi. Il nous invite à choisir. Alma emploie des mots d'action résultant d'un choix. Il utilise les mots s'éveiller, donner de l'essor, faire l'expérience d'eux, faire preuve d'eux, désirer, agir et planter. Puis il explique que si nous faisons ces choix et que nous ne chassons pas la semence par notre incrédulité, voici, et je cite, « elle commencera à gonfler dans notre sein ». Oui, la foi est un choix et on doit la rechercher, la développer. Nous sommes donc responsables de notre foi. Nous sommes également responsables de notre manque de foi. Le choix vous appartient. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je ne connais pas les détails de l'organisation de la matière dans le bel univers dans lequel nous vivons. Je ne comprends pas la complexité de l'expiation, la façon dont le sacrifice du Sauveur peut purifier toutes les personnes qui se repentent, ou comment le Sauveur a pu éprouver les souffrances de tous les hommes. Je ne sais pas où se trouvait la ville de Zarahemla, mentionnée dans le livre de Mormon. Je ne sais pas pourquoi mes croyances sont quelquefois en conflit avec les connaissances scientifiques ou profanes présumées. Ce sont peut-être ces questions que notre Père Céleste a décrites comme étant les mystères du royaume des cieux qui seront révélés à une date ultérieure. Mais si je ne sais pas tout, je sais ce qui est important. Je connais les vérités claires et simples de l'Évangile qui mènent au salut et à l'exaltation. Je sais que le Sauveur a véritablement éprouvé les souffrances de tous les hommes et que toutes les personnes qui se repentent peuvent être purifiées du péché. et ce que je ne sais pas ou ce que je ne comprends pas complètement, avec l'aide puissante de ma foi, j'en comble le fossé et je vais de l'avant en bénéficiant des promesses et des bénédictions de l'Évangile. Et puis, comme l'enseigne Alma, notre foi nous conduit à une connaissance parfaite, à aller de l'avant dans l'inconnu, armé seulement de l'espérance et du désir, et la preuve de notre foi et de notre dévotion envers le Seigneur. Et donc, conformément à la formule d'Alma, choisissons, choisissons la foi. Si la confusion et le découragement pèsent sur votre esprit, choisissez de vous éveiller et de donner de l'essor à vos facultés. S'approcher humblement du Seigneur, le cœur brisé, l'esprit contrit, est la voie vers la vérité et le chemin du Seigneur vers la lumière, la connaissance et la paix. Si votre témoignage est immature, n'a pas été mis à l'épreuve, et est mal affermi, choisissez de faire preuve d'un tout petit peu de foi, choisissez de faire l'expérience des paroles du Christ. Le Sauveur a expliqué, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Quand la logique, la raison ou l'intelligence personnelle entrent en conflit avec les enseignements et la doctrine sacrée, ou que des messages contradictoires assaillent vos croyances comme les traits enflammés décrits par l'apôtre Paul, choisissez de ne pas chasser la semence hors de votre cœur par votre incrédulité. Souvenez-vous, nous ne recevons de témoignages qu'après la mise à l'épreuve de notre foi. Si votre foi est éprouvée et a atteint sa maturité, choisissez de la nourrir avec grand soin. Aussi forte que soit notre foi, avec tous les messages contradictoires qui l'attaquent, elle peut aussi devenir très fragile. Elle a besoin d'une nourriture constante par l'étude des Écritures, la prière et la mise en pratique de la parole. Lorsque les disciples demandent à Jésus pourquoi ils ne peuvent pas chasser un démon alors qu'ils viennent de voir le Sauveur le faire, Jésus leur répond, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » Je n'ai jamais assisté au déplacement d'une montagne réelle. Mais grâce à la foi, j'ai vu déplacer une montagne de doute et de désespoir et la remplacer par l'espérance et l'optimisme. Grâce à la foi, j'ai été personnellement témoin et j'ai vu remplacer une montagne de péché par le repentir et le pardon. Et grâce à la foi, j'ai personnellement vu remplacer une montagne de douleur par la paix, l'espérance et la gratitude. Oui, j'ai vu déplacer des montagnes. Grâce à ma foi, j'ai activé le pouvoir de la prêtrise que je détiens et j'ai connu la douceur de l'Évangile et j'ai fait mienne les ordonnances salvatrices. Grâce à ma foi, je sors des luttes et des difficultés de la vie avec de la paix et de l'assurance. Grâce à ma foi, j'ai réussi à transformer des questions et même des doutes en assurance et en de la compréhension. Grâce à ma foi, j'aborde l'inconnu, l'invisible et l'inexpliqué avec une assurance inconditionnelle. Et grâce à ma foi, même pendant les moments qui semblent les pires, je me rends compte avec paix et avec gratitude qu'en réalité, ce sont les meilleurs. Et quand nous choisissons la foi et puis nourrissons cette foi jusqu'à avoir la connaissance parfaite des choses du Seigneur, nous utilisons alors les mots « je rends témoignage » ou « je sais ». J'ai planté personnellement la semence dans mon cœur et durant toute ma vie, je me suis efforcé de nourrir cette semence jusqu'à parvenir à une connaissance parfaite. Et aujourd'hui que je me tiens à cette chair, je rends témoignage que Jésus est le Christ, le Rédempteur du monde. Je rends témoignage en outre que Joseph Smith était un prophète de Dieu et l'instrument vivant dont le Seigneur s'est servi pour ramener sur la terre l'Évangile complet et véritable de Jésus-Christ. Je rends témoignage que le président Monson est le prophète du Seigneur aujourd'hui. De même, c'est à vous de choisir la foi. Choisissons la foi. Au saint nom de Jésus-Christ, amen.
The choir and congregation will now join in singing, Lord, I would follow thee. At the conclusion of the
chœur et l'assemblée vont maintenant chanter, Seigneur, je te suivrai. Après ce cantique, Kevin R. Duncan et Gary W. Gong des 70 nous adresseront la parole. Après le discours de Frère Gong, nous aurons le plaisir d'entendre Neil L. Anderson du Collège des 12 apôtres.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church.
Vous assistez à la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
L'hiver 1848 fut difficile et éprouvant pour les pionniers colons de la vallée du lac Salé. Au cours de l'été 1847, Brigham Young a déclaré que les saints avaient finalement atteint leur destination. C'est le bon endroit, avait déclaré le président Young, qui avait eu une vision lui montrant le lieu où les saints devraient s'établir. Les premiers membres de l'Église avaient subi une adversité terrible, tandis que le rétablissement de l'Évangile était en cours. Ils avaient été chassés de chez eux, persécutés et pourchassés. Ils avaient souffert des privations indicibles en traversant les plaines. Mais à présent, ils étaient finalement au bon endroit. Pourtant, l'hiver 1848 avait été extrêmement dur. Il avait fait tellement froid que plusieurs personnes avaient eu les pieds gravement gelés. un malaise commençait à envahir les saints. Certains membres de l'Église déclarèrent qu'ils ne construiraient pas leur maison dans cette vallée. Ils voulaient rester dans leur chariot, parce qu'ils étaient sûrs que les dirigeants de l'Église les guideraient vers un meilleur emplacement. Ils avaient apporté des semences et des plants d'arbres fruitiers, mais ils n'osaient pas les gaspiller en les plantant dans les terres incultes de ce désert aride. Jim Bridger, explorateur très connu de l'époque, avait dit à Brigham Young qu'il offrirait $1,000 pour le premier boisseau de maïs cultivé dans la vallée du lac Salé, parce que, prétendait-il, c'était irréalisable. Pour compliquer encore les choses, on venait de découvrir de l'or en Californie. Certains membres de l'Église imaginaient que la vie serait plus simple et plus prospère s'ils continuaient jusqu'en Californie, où ils trouveraient la richesse et un meilleur climat. C'est dans cette ambiance de mécontentement que Brigham Young s'adressa aux membres de l'Église. Il déclara, « Cette vallée est le lieu que Dieu a désigné pour son peuple. Nous avons été jetés de la poêle à frire dans le feu, puis du feu sur le plancher. Et nous sommes ici, et ici nous resterons. Dieu m'a montré que c'est l'endroit où installer son peuple. Et c'est ici qu'il prospérera. Il tempérera les éléments pour le bien de ses saints. Il réprimandera le gel, la stérilité du sol, et la terre deviendra fertile. Frères, allez maintenant et plantez vos semences. » En plus de ces bénédictions, le président Young déclara que la vallée du lac Salé serait connue comme une grande route pour les nations. Des rois et des empereurs visiteraient le pays. Et surtout, un temple du Seigneur y serait érigé. C'était des promesses remarquables. De nombreux membres de l'Église eurent foi en Brigham Young, tandis que d'autres restaient sceptiques et partirent vers ce qu'ils pensaient être une vie meilleure. Pourtant, l'histoire a montré que chaque prophétie de Brigham Young s'est réalisée. La vallée a effectivement fleuri et est devenue productive. Les saints ont prospéré. L'hiver 1848 a été un grand catalyseur et a permis au Seigneur de donner à son peuple une leçon précieuse. Les membres ont appris, comme nous devons tous le faire, que dans cette vie, la seule voie sûre vers la protection consiste à faire confiance et à obéir au conseil des prophètes de Dieu. Sans aucun doute, l'une des plus grandes bénédictions des membres de cette Église est d'être guidé par des prophètes de Dieu. Le Seigneur a déclaré, « Il n'y en a jamais qu'un à la fois sur terre, à qui ce pouvoir et les clés de cette prêtrise sont conférées. » Thomas S. Monson, le prophète et président de l'Église actuelle, reçoit la parole de Dieu pour l'ensemble des membres de l'Église et pour le monde. De plus, nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs, les conseillers dans la première présidence et les membres du Collège des douze apôtres. Avec les pieds gelés et un sol aride, il devait falloir de la foi à ces premiers saints pour faire confiance à leurs prophètes. Leur survie même était en jeu. Pourtant, le Seigneur récompensa leur obéissance et les bénit. Ceux qui suivirent son porte-parole prospérèrent. Le Seigneur agit de même aujourd'hui pour vous et pour moi. Ce monde est rempli de tant de livres promettant l'épanouissement personnel, de tant d'experts autoproclamés, de tant de théoriciens, d'éducateurs, de philosophes qui ont des conseils à donner sur tous les sujets imaginables. Avec la technologie actuelle, on dispose de renseignements sur une myriade de sujets en un clic de souris. Il est facile de se laisser prendre au piège, d'avoir recours au bras de la chair pour avoir des conseils sur tout, depuis l'éducation des enfants jusqu'à la façon de trouver le bonheur. S'il est vrai que certains renseignements ont de la valeur, les membres de l'Église, nous avons accès à la source de vérité pure, Dieu lui-même. Nous avons tout intérêt à chercher des réponses à nos problèmes et nos questions en examinant ce que le Seigneur a révélé par ses prophètes. Grâce à cette même technologie, aujourd'hui nous avons, à portée de main, accès aux paroles des prophètes sur presque n'importe quel sujet. Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné au sujet du mariage et de la famille par l'intermédiaire de ses prophètes? Que nous a-t-il enseigné sur l'instruction et la prévoyance par l'intermédiaire de ses prophètes? Que nous a-t-il enseigné sur le bonheur et l'épanouissement personnel par l'intermédiaire de ses prophètes? Ce qu'enseignent les prophètes peut sembler dépassé, impopulaire ou même impossible aux yeux de certains. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il établit un système grâce auquel nous pouvons connaître sa volonté. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Au début de cette dispensation, qui est celle de la plénitude des temps, le Seigneur a réaffirmé qu'il communiquerait avec nous par ses prophètes. Il a dit, « Ma parole s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs. » C'est la même chose. Faire confiance aux prophètes et le suivre est davantage qu'une bénédiction et un honneur. Ezra Taft Benson a déclaré que notre salut même dépend de l'obéissance aux prophètes. Il a décrit ce qu'il a appelé les 14 points fondamentaux pour suivre le prophète. Pendant la session de ce matin, Claudio Costa, de la présidence de 70, nous a enseigné avec beaucoup d'éloquence ces 14 points fondamentaux. Du fait de leur très grande importance pour notre salut, je vais les répéter. 1. Le prophète est le seul homme qui parle en tout au nom du Seigneur. 2. Le prophète vivant est plus vital pour nous que les ouvrages canoniques. 3. Le prophète vivant a plus d'importance pour nous qu'un prophète mort. 4. Le prophète n'égarera jamais l'Église. 5. Il n'est pas demandé au prophète d'avoir une quelconque formation terrestre ou des diplômes pour prendre la parole sur un sujet quelconque ou pour agir en un domaine quelconque à quelque moment que ce soit. 6. Le prophète n'a pas besoin de dire « Ainsi dit le Seigneur » pour nous donner des Écritures. 7. Le prophète nous dit ce que nous avons besoin de savoir, mais pas toujours ce que nous avons envie de savoir. 8. Le prophète n'est pas limité par le raisonnement des hommes. 9. Le prophète peut recevoir des révélations dans n'importe quel domaine, temporel ou spirituel. 10. Le prophète peut s'exprimer dans le domaine civil. 11. Les deux groupes qui ont le plus de difficultés à suivre le prophète sont les orgueilleux qui sont instruits et les orgueilleux qui sont riches. 12. Le prophète ne sera pas nécessairement populaire auprès du monde ou des gens du monde. 13. Le prophète et ses conseillers forment la première présidence, qui est le collège suprême de l'Église. 14. Suivez le prophète vivant et la première présidence, et vous serez bénis. Rejetez-les, et vous en souffrirez. Frères et sœurs, comme les saints de 1848, nous pouvons choisir de suivre le prophète ou de nous appuyer sur le bras de la chair. Puissions-nous avoir la sagesse de nous fier au conseil des prophètes et des apôtres actuels et de les suivre. Je suis témoin de leur bonté, et je témoigne qu'ils sont appelés de Dieu. Je témoigne qu'il n'y a pas de moyen plus sûr d'aborder la vie, de trouver la réponse à nos problèmes, d'acquérir paix et bonheur dans ce monde, et de protéger notre salut lui-même, que d'obéir à leurs paroles. Je rends ce témoignage au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, quand notre fils était au centre de formation des missionnaires de Provo, Sœur Gong lui envoyait du pain frais à lui et à ses collègues missionnaires. Voici quelques-uns des mots de remerciement que les missionnaires lui ont adressés. Sœur Gong, ce pain avait le goût de chez moi. Sœur Gong, tout ce que je peux dire, c'est super. Ce pain est la meilleure chose qui soit entrée dans ma bouche depuis les enchiladas de ma mère. Mais voici celui que je préfère. Sœur Gong, le pain était merveilleux. Pensez à moi si les choses vont mal entre M. Gong et vous. Nous aimons nos missionnaires. Chaque sœur, chaque frère, chaque couple d'âge mûr. Nous sommes tous éternellement reconnaissants envers ce missionnaire spécial qui a porté l'évangile rétabli de Jésus-Christ à notre famille. Je témoigne avec reconnaissance qu'une perspective éternelle de la conversion à l'Évangile et des alliances du Temple peut nous aider à avoir de grandes bénédictions dans chaque génération de notre famille éternelle. La première personne convertie à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans la famille Gong est notre mère, Jean Gong. À Honolulu, alors qu'elle était adolescente, elle a écouté, elle a su, elle a été baptisée, confirmée, et elle continue à œuvrer dans la foi. De fidèles membres de l'Église ont aidé ma mère afin qu'elle ait des amis dans l'Église, des appels dans l'Église, et ils ont continué à la nourrir de la bonne parole de Dieu. En langage actuel, chaque nouveau converti, jeune adulte seul, les personnes qui redeviennent pratiquants dans l'Église et d'autres sont une bénédiction pour des générations quand ils deviennent concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parmi les familles qui ont nourri ma mère, il y a eu celle de Gerrit de Jong, fils. Grand-père de Jong, linguiste qui aimait la langue du cœur et de l'esprit, taquinait mon imagination de petit garçon par des expressions comme « Les murs sont vertes quand elles sont rouges ». De nos jours, quand on parle d'appareils électroniques portables, je dis à mes amis « Quand vous consultez votre BlackBerry à l'église, votre jeune évêque voit rouge ». Mes parents, Walter et Jean Gong, se sont mariés 3 fois, lors d'une cérémonie chinoise pour leur famille, lors d'une cérémonie américaine pour leurs amis, et dans la maison du Seigneur pour le temps et pour l'éternité. Nos enfants de la primaire chantent « Oh, j'aime voir le temple, un jour là-bas j'irai ». Nos jeunes promettent de recevoir les ordonnances du temple. Je me suis récemment trouvé dans une maison du Seigneur avec un couple digne qui était pour recevoir des bénédictions par alliance. Je l'ai invité à faire durer sa première lune de miel 50 ans, puis après ces 50 années, a commencé sa seconde lune de miel. Je me suis retrouvé à regarder dans les miroirs du temple avec ce beau couple. Un miroir de ce côté-ci, un miroir de ce côté-là. Ensemble, les miroirs du temple reflètent dans les deux sens des images qui semblent s'étirer jusque dans l'éternité. Les miroirs d'éternité du temple nous rappellent que chaque être humain a une nature et une destinée divine, que les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner dans la présence de Dieu et à la famille d'être unis éternellement, et que si notre amour et notre fidélité pour Dieu croissent, nous pouvons donner à nos enfants des racines et des ailes. Dans les miroirs d'éternité du temple, j'ai imaginé premier dragon Gong, né en 837 après Jésus-Christ, dernière dynastie Tang en Chine du Sud, et les générations successives de la famille Gong jusqu'à mon cher père, 32e génération enregistrée dans notre famille. Mon frère, ma sœur et moi sommes la 33e génération de notre famille, mes fils et leurs cousins, la 34e génération, notre petit-fils, la 35e génération enregistrée de la famille Gong. Dans les miroirs d'éternité du temple, je n'ai pas pu voir le commencement ou la fin des générations. Ensuite, j'ai imaginé non seulement une succession de générations, mais aussi une succession de relations familiales. Dans une direction, je me suis vu fils, petit-fils, arrière-petit-fils, jusqu'à 31 aïeux, jusqu'à premier dragon Gong. Dans les miroirs d'éternité, dans l'autre direction, je me suis vu père, grand-père, arrière-grand-père. J'ai vu Suzanne, ma femme, comme fille, arrière-petite-fille, et dans l'autre direction, mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Dans les miroirs d'éternité du temple, j'ai aussi commencé à considérer ma femme et moi-même simultanément comme enfants de nos parents et parents de nos enfants, comme petits-enfants de nos grands-parents et grands-parents de nos petits-enfants. Les grandes leçons de la condition mortelle se distillent en notre âme quand nous apprenons et enseignons notre rôle éternel d'enfant et de parents et d'enfants. Les Écritures décrivent notre Sauveur comme étant le Père et le Fils, demeurant dans la chair mais soumettant la chair à la volonté du Père. Notre Sauveur sait comment nous secourir, nous, son peuple, dans nos douleurs, nos afflictions, nos tentations, nos maladies, même la mort. Étant descendu au-dessous de tout, notre Sauveur peut porter nos chagrins et nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et ce sont les meurtrissures de notre Sauveur qui nous guérissent. Depuis les conseils dans les cieux, notre Sauveur n'a cherché qu'à faire la volonté de son Père. Cette relation Père-Fils peut contribuer à expliquer le paradoxe « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ». Le monde recherche son propre intérêt, mais nous n'avons pas le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais le Seigneur l'a, infini et éternel. Seul le sacrifice expiatoire de notre Sauveur transcende le temps et l'espace pour engloutir la mort, la colère, l'amertume, l'injustice, la solitude et le chagrin. Parfois, les choses tournent mal, bien que nous ayons fait de notre mieux. Agneau innocent et pur, notre Sauveur pleure avec et pour nous. Lorsque nous nous souvenons toujours de lui, il peut se tenir à nos côtés en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons. Sa fidélité est plus forte que les liens de la mort. En nous attirant à lui, notre Sauveur nous rapproche aussi de notre Père Céleste. Alors que certaines choses sur la terre sont imparfaites, nous pouvons nous fier à notre Père Céleste pour réaliser le grand dessein de la rédemption où la justice, l'amour et la miséricorde se joignent en divine harmonie. Le miracle des images que nous discernons dans les miroirs d'éternité du temple est qu'elles peuvent changer, que nous pouvons changer. Quand Jean et Walter Gong ont contracté la nouvelle alliance éternelle, ils ont ouvert la voie pour que leurs ancêtres, tels que premier dragon Gong, soient scellés et pour que leurs descendants naissent dans l'alliance. N'oubliez pas, quand nous tendons la main à chaque sœur ou frère, nous bénissons des générations. Le monde est en tumulte, mais dans la seule Église vraie vivante du Seigneur se trouve la foi et non la crainte. Avec l'apôtre Paul, je témoigne solennellement, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je témoigne humblement, Dieu vit. Il essuiera toutes larmes de nos yeux, excepté les larmes de joie, lorsque nous regardons dans les miroirs d'éternité et que nous nous voyons rentrer à la maison pure et propre, nos générations familiales scellées par l'autorité de la prêtrise dans l'amour pour crier « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Je tiens à dire mon amour et mon admiration pour la foi et le courage que j'ai vu chez vous, membres de l'Église de par le monde. Pour nous aider dans nos efforts pour retourner auprès de lui, le Seigneur nous met en garde contre les dangers qui nous attendent. Écoutez cet avertissement. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde d'être trompés. Soyez vigilants et soigneux. Mettez-vous sur vos gardes de peur que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Personne n'est immunisé contre les influences du monde. Les recommandations du Seigneur nous invitent à rester sur nos gardes. Vous vous rappellerez l'expérience de Jésus à Capernaum lorsque les disciples qui avaient suivi le Sauveur n'ont pas voulu accepter qu'il était le Fils de Dieu. L'Écriture dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. » Jésus s'est alors tourné vers les 12 et a demandé « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» J'ai répondu intérieurement bien des fois à cette question « Absolument pas, pas moi, je ne le quitterai jamais, je suis ici pour toujours. » Je sais que vous avez répondu de la même manière. Mais la question « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» nous incite à penser à notre vulnérabilité. Nous nous rendons compte que la vie n'est pas un pique-nique spirituel. Les mots de Pierre prononcés dans un autre contexte nous viennent discrètement à l'esprit. « Est-ce moi, Seigneur ?» Nous entrons dans les eaux du baptême avec joie et empressement. Le Sauveur nous fait signe « Venez à moi » et nous répondons avec foi en lui, en prenant son nom sur nous. Au départ, personne d'entre nous ne veut que notre voyage soit un bref contact avec la spiritualité. Cependant, nous ne tardons pas à comprendre que les paroles de Jésus « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ne sont pas pour les timorés spirituels. Si quelqu'un veut venir après moi, a-t-il dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous devons lui offrir notre âme toute entière. Nous nous rendons compte qu'avec l'approfondissement de notre conversion, nous allons affronter des difficultés. Il semble parfois plus facile de quitter le Sauveur que de lui rester fidèle. La condition mortelle nous bloque la vue. Certaines personnes que nous aimons et admirons s'écartent du chemin étroit et resserré et ne vont plus avec lui. Comment rester fidèle au Sauveur, à son évangile et aux ordonnances de sa prêtrise? Comment accueillir la foi et la force pour ne jamais le quitter? Jésus a dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous avons besoin du cœur croyant de l'enfant. » Par le pouvoir de son expiation, nous devons devenir semblables à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à nous soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. C'est le grand changement de cœur. Nous voyons vite pourquoi un changement de cœur est nécessaire. Deux mots signalent le danger qui nous attend, offensé et honteux. Jésus a demandé à ceux qui étaient perturbés par la divinité du Sauveur, « Cela vous scandalise-t-il? » Dans la parabole du semeur, Jésus avertit, « Il manque de persistance, et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. L'offense revêt de nombreux déguisements et trouve continuellement le moyen d'entrer en scène. Les gens auxquels nous croyons nous déçoivent. Nous avons des difficultés imprévues. Notre vie ne prend pas la direction que nous espérions. Nous faisons des erreurs. Nous nous sentons indignes et nous nous demandons si nous allons recevoir le pardon. Nous nous interrogeons sur une question de doctrine. Nous apprenons quelque chose qui a été dit en chair il y a 150 ans, et cela nous tracasse. Nos enfants sont traités injustement. On nous ignore, ou l'on ne nous apprécie pas à notre juste valeur. Ce pourrait être 36 choses, chacune très réelle pour nous sur le moment même. Dans nos moments d'affaiblissement, l'adversaire cherche à nous voler nos promesses spirituelles. Si nous ne sommes pas attentifs, notre esprit enfantin blessé se renfermera dans la croûte froide et sombre de notre ancien moi, laissant derrière lui la lumière chaude et guérisseuse du Sauveur. En 1835, quand Parley P. Pratt fut jugé injustement, ce qui lui valut la honte et l'embarras à lui et à sa famille, Joseph Smith, le prophète, lui conseilla, « Parley, foule ce genre de choses aux pieds, et le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. » En octobre 1830, Frederick G. Williams, médecin de renom, se fit baptiser. Il donna immédiatement ses talents et sa prospérité à l'Église. Il devint un dirigeant dans l'Église. Il fit don de ses biens pour le temple de Kirtland. En 1837, pris dans les difficultés de l'époque, il commit de graves erreurs. Le Seigneur dit dans une révélation qu'en conséquence de ses transgressions, son ancienne place dans la direction de l'Église lui avait été enlevée. La belle leçon que Frederick G. Williams nous donne est que, quelles qu'aient été ses faiblesses personnelles, il eut la force de caractère de renouveler sa fidélité au Seigneur, au prophète et à l'Église, alors qu'il aurait été si facile de devenir amer. Au printemps de 1840, il se présenta à une conférence générale demandant humblement pardon pour sa conduite passée et exprimant sa détermination de faire la volonté de Dieu. Son cas fut présenté par Hiram Smith et il fut pardonné. Il mourut membre fidèle de l'Église. J'ai récemment rencontré le président du Temple de Recife au Brésil, dont le nom est Frederick G. Williams. Il m'a raconté comment la décision courageuse de son arrière-arrière-grand-père a été une bénédiction pour sa famille et des centaines de personnes de sa postérité. Offensé à un compagnon corrosif appelé honteux. Dans le livre de Mormon, il est question de la vision de l'arbre de vie donnée à Lehi. La vision parle de ces âmes nobles qui marchèrent résolument au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer, qui arrivèrent et mangèrent du fruit de l'arbre. Le fruit, décrit par un ange comme étant l'amour de Dieu, était délicieux et il leur remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Après avoir goûté du fruit, Lehi vit un grand et spacieux édifice, rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée, et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt, avec mépris, ceux qui étaient venus manger du fruit. L'ange expliqua que les railleries, les moqueries, les doigts pointés avec mépris représentaient l'orgueil et la sagesse du monde. Lehi dit clairement, « Nous ne fîmes pas attention à eux. » Malheureusement, il y en eut d'autres dont le courage faiblit. L'Écriture dit, « Après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux. » Et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se pédirent. Pierre dit de nous que nous sommes un peuple acquis. À bien des égards, en tant que disciples du Christ, nous sommes à part du monde. Il peut y avoir des moments où nous nous sentons mal à l'aise lorsque le mépris se moque et rejette ce qui est sacré pour nous. Comme Lehi le conseille, ne faites pas attention à eux, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Nous ne le quittons jamais. Certains demandent, est-ce que je dois être si différent des autres? Ne puis-je être disciple du Christ sans penser tellement de ma conduite? Ne puis-je aimer le Christ sans garder la loi de chasteté? Ne puis-je l'aimer et faire ce que je veux le dimanche? Jésus a donné une réponse simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Certains demandent, n'y a-t-il pas beaucoup d'autres religions qui aiment le Christ? Naturellement. Cependant, comme membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, ayant le témoignage de sa réalité, non seulement par la Bible, mais aussi par le livre de Mormon, sachant que sa prêtrise a été rétablie sur la terre, après avoir pris l'engagement sacré de le suivre, et après avoir reçu le don du Saint-Esprit, après avoir été doté de pouvoir dans son Saint-Temple et faisant partie de la préparation de son retour glorieux sur terre, nous ne pouvons pas comparer ce que nous sommes censés être avec ceux qui n'ont pas encore reçu ces vérités. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Le Seigneur a dit, « Tu peux choisir par toi-même. » Je vous promets que si vous faites le choix de ne pas être offensé ou d'avoir honte, vous sentirez son amour. Vous saurez que vous devenez plus semblable à lui. Comprendrons-nous tout? Naturellement, non. Nous mettrons certains problèmes au frigo, nous les comprendrons plus tard. Est-ce que tout sera juste? Non. Nous accepterons certaines choses que nous ne pouvons pas régler, et nous pardonnerons aux autres quand cela fera mal. Nous arrivera-t-il de nous sentir séparés de notre entourage? Absolument. Serons-nous parfois étonnés de voir la colère que quelques-uns éprouvent à l'égard de l'Église du Seigneur et les efforts qu'ils font pour profiter de la foi chancelante des faibles? Oui. Mais cela n'empêchera ni la croissance ni la destinée de l'Église, ni ne gênera la progression spirituelle de chacun de nous qui sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous faisons preuve de foi au Seigneur Jésus-Christ et nous respectons les alliances que nous avons faites avec lui. Nous enfonçons profondément nos racines spirituelles, nous faisons quotidiennement au festin des paroles de Christ dans les Écritures, nous faisons confiance aux paroles des prophètes vivants, placés devant nous pour nous montrer la voie. Nous prions sans relâche et nous écoutons le murmure doux et léger du Saint-Esprit qui apaise notre âme et nous guide. Quels que soient les problèmes qui surgissent, jamais, non jamais, nous ne le quitterons. Le Sauveur a demandé à ses apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Moi aussi, j'ai ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. »
And are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. I too have that witness. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen.
We remind the brethren.
Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Chœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du samedi dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous remercions le chœur de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi et les personnes qui ont fait un discours pendant cette session de la conférence. Richard G. Scott, du Collège des Douze Apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Home ». Après ce chant, George F. Zeballos, des 70, fera la prière de clôture. Frère Scott.
When faith is properly understood,
quand la foi est bien comprise et utilisée, elle a des effets d'une portée spectaculaire. Une telle foi peut transformer des activités quotidiennes et ordinaires en une symphonie de joie et de bonheur. L'exercice de la foi est essentiel au plan du bonheur de notre Père Céleste. Mais la foi qui conduit au salut, se concentre sur notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en sa doctrine et ses enseignements, en la direction prophétique des oints du Seigneur, en la capacité de découvrir les caractéristiques et les qualités cachées qui peuvent transformer la vie. La foi au Sauveur est véritablement un principe d'action et de pouvoir. La foi est à la base de la création. Je sais que le Sauveur Jésus-Christ a utilisé la foi en sa capacité d'agir sous la direction de notre Père Céleste. Le Maître l'a utilisé pour créer les galaxies les plus éloignées, aussi bien que les quarks, ces éléments les plus petits de la matière connue à ce jour. Pourtant, j'ai la foi qu'il y a des éléments encore plus petits dans la merveille qu'est la création. La foi en l'avenir est manifestée par un homme et une femme scellés dans le temple. Ils comprennent que par l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ et par le plan du bonheur de notre Père Céleste, ils peuvent avoir une vie joyeuse ensemble. Ils savent que lorsque viendront les difficultés, qui sont censées être des occasions de progresser, ils trouveront des moyens, inspirés par le Saint-Esprit, de les surmonter de manière productive et formatrice de la personnalité. La foi et la personnalité sont intimement liées. La foi au pouvoir de l'obéissance, au commandement de Dieu, forge la personnalité dont vous aurez besoin dans les moments difficiles. Cette personnalité ne se développe pas dans les moments de grandes difficultés ou de grandes tentations. C'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser. L'exercice de votre foi dans les principes de vérité édifie votre personnalité. Une personnalité fortifiée augmente votre capacité d'exercer davantage de foi. Vous avez ainsi davantage confiance en votre capacité de surmonter les épreuves de la vie. Plus votre personnalité se fortifie, plus vous êtes capable de bénéficier de l'exercice du pouvoir de la foi. Vous découvrirez comment la foi et la personnalité interagissent pour se développer mutuellement. La personnalité se tisse patiemment avec les fils que sont les principes, la doctrine et l'obéissance. Nous devenons ce que nous voulons être en étant constamment, chaque jour, ce que nous voulons devenir. Une personnalité juste est la manifestation précieuse de ce qu'on est en train de devenir. Une personnalité juste a plus de valeur que n'importe quel bien matériel ou n'importe quelle connaissance acquise par l'étude ou n'importe quel objectif que vous ayez atteint, aussi applaudi soit-il par l'humanité. Dans la prochaine vie, votre personnalité juste sera évaluée pour déterminer si vous avez bien utilisé le don de la condition mortelle. Ni Satan, ni aucun autre pouvoir ne peut saper ni détruire votre personnalité grandissante. Vous êtes le seul à pouvoir le faire par la désobéissance. Une personnalité de premier ordre est réduite en cendres lorsqu'elle est rongée par la tromperie ou la transgression. Une personnalité moralement forte est le résultat de choix systématiquement corrects faits lors des épreuves de la vie. Ces choix se font par la confiance en ce que vous croyez et vous en recevez la confirmation lorsque vous agissez conformément à ces convictions. Sur quel principe vecteur de pouvoir la foi est-elle fondée? La confiance en Dieu et en sa volonté de vous aider lorsque vous en avez besoin. Quelle que soit la difficulté de la situation, l'obéissance à ses commandements et une vie qui démontre qu'il peut avoir confiance en vous. La sensibilité au murmure discret de l'esprit. L'obéissance courageuse à ses murmures. La patience et la compréhension lorsque Dieu vous laisse dans les difficultés pour votre progression. Et qu'il vous répond peu à peu sur une longue période. La foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez le témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. Ainsi, chaque fois que vous mettrez votre foi à l'épreuve, c'est-à-dire que vous suivrez en justice une impression, vous recevrez une confirmation de l'Esprit.
Lorsque vous avancerez jusqu'à la frontière entre votre compréhension et le crépuscule de l'incertitude, vous serez amené à trouver des solutions que vous ne pourrez obtenir que par la foi. Même si vous faites preuve d'une grande foi, Dieu ne vous récompensera pas toujours immédiatement selon vos désirs. Mais il agira en fonction de ce qu'il y a de mieux pour vous dans son plan éternel, au moment où ce sera le plus avantageux pour vous. Soyez reconnaissant de ce que parfois Dieu vous laisse vous débattre pendant longtemps avant que cette réponse arrive. Cela fait grandir votre foi et fortifie votre personnalité. Le fondement de la personnalité est l'intégrité. La dignité renforce votre capacité de reconnaître les directives de l'esprit et d'y obéir. L'exercice constant de la foi crée une personnalité forte. Vous posez un fondement sûr pour l'épanouissement de votre personnalité en mettant Jésus-Christ et ses enseignements au centre de votre vie. Votre bonheur sur la terre, ainsi que votre salut éternel, requiert de nombreuses bonnes décisions, dont aucune n'est difficile à prendre. Ensemble, ces décisions forgent une personnalité résistant aux influences corrosives du péché et de la transgression. Une personnalité noble est comme une porcelaine de prix, faite avec foi de matière première de choix, fabriquée avec attention par des actes constants de justice et cuite au four, édifiant de l'expérience. C'est un objet d'une grande beauté et d'une valeur inestimable. Et cependant, elle peut être brisée en un instant par la transgression, et sa reconstruction nécessitera un long et douloureux effort. Quand elle est protégée par la maîtrise de soi, une personnalité juste dure toute l'éternité. Les biens matériels ne produisent pas par eux-mêmes le bonheur, la satisfaction et la joie de l'épanouissement sur la terre. Et ils ne nous conduisent pas à l'exaltation. C'est la noblesse de caractère, cette force et cette conviction intérieure tissée par d'innombrables décisions justes qui donnent son sens à la vie. Une vie constante de justice produit une force intérieure qui peut être complètement étanche à l'influence corrosive du péché et de la transgression. Votre foi en Jésus-Christ et votre obéissance à ses commandements fortifieront votre personnalité. Elle est une mesure de ce que vous devenez. Elle est la preuve de la bonne utilisation de votre temps sur terre en cette période d'épreuve mortelle. Une évidence que nous comprenons tous est qu'il faut payer le prix de ce que l'on veut obtenir. C'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Il faut payer le prix par l'obéissance, la foi en Jésus-Christ et la mise en pratique diligente des vérités que vous apprenez. Ce que vous obtiendrez, c'est que votre personnalité sera façonnée, que vos capacités grandiront et que vous atteindrez le but de votre existence ici-bas, qui est d'être mise à l'épreuve et d'avoir de la joie. La vie ici-bas est une mise à l'épreuve. Le succès avec lequel nous en affrontons les difficultés détermine la force qu'aura notre personnalité. Notre foi en Jésus-Christ et en ses enseignements fortifie notre personnalité. Le témoignage est fortifié par des impressions spirituelles qui confirment la validité d'un enseignement ou d'un acte juste. Ces impressions sont souvent accompagnées de fortes émotions qui provoquent des larmes et qui empêchent de parler. Mais un témoignage n'est pas une émotion. C'est l'essence même d'une personnalité, tissée par les fils innombrables de bonnes décisions. Ces choix sont faits au moyen de la foi, en des choses auxquelles on croit, et au moins au début, qu'on ne voit pas. Un témoignage fort apporte la paix, la consolation et l'assurance. Il produit la conviction que si l'on respecte systématiquement les enseignements du Sauveur, la vie est belle, l'avenir assuré, et qu'il sera possible de surmonter les difficultés que l'on rencontrera. Le témoignage découle de la compréhension de ce qui est vrai, distillé par la prière et la méditation de la doctrine dans les Écritures. Il est nourri par le respect de ces vérités, avec une foi ancrée dans la confiance certaine que nous obtiendrons les résultats promis. L'influence grandissante de Satan dans le monde est permise pour fournir un cadre dans lequel faire nos preuves. Bien qu'il fasse des ravages aujourd'hui, le destin final de Satan a été déterminé par l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ. Le démon ne triomphera pas. Même maintenant, il ne peut agir que dans les limites fixées par le Seigneur. Il ne peut pas enlever des bénédictions qui ont été méritées. Il ne peut pas altérer une personnalité qui a été tissée par des décisions justes. Il n'a aucun pouvoir pour détruire les liens éternels forgés dans un saint temple entre Marie, sa femme et leurs enfants. Il ne peut pas éteindre une véritable foi. Il ne peut pas nous enlever notre témoignage. Oui, nous pouvons perdre ces choses en succombant à ces tentations, mais il n'a aucun pouvoir, en et par lui-même, de les détruire. Pour résumer, Dieu utilise votre foi pour façonner votre personnalité. Celle-ci est la manifestation de ce que vous êtes en train de devenir. Une personnalité forte est le résultat de bons choix constants. Le fondement de la personnalité est l'intégrité. Plus votre personnalité est fortifiée, plus vous êtes capable d'exercer le pouvoir de la foi. Puis-je vous donner quatre principes qui m'ont apporté la paix et le bonheur les plus profonds dans ma propre vie? Le Seigneur a établi ses pierres angulaires dans son plan éternel, et chacune est essentielle. Elles agissent toutes harmonieusement ensemble et se renforcent mutuellement. Lorsqu'on les applique avec diligence et constance, elles produisent la force de caractère, une plus grande capacité de transformer les difficultés de la vie en tremplin vers le bonheur, maintenant et à jamais. Ce sont la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son programme pour acquérir le pouvoir d'accomplir, le repentir pour rectifier les conséquences des fautes de mission ou de commission, l'obéissance au commandement du Seigneur pour obtenir de la force et une direction dans notre vie, le service désintéressé pour enrichir la vie d'autrui. Si vous avez décidé de mener une vie juste, ne vous découragez pas. La vie peut sembler difficile maintenant, mais tenez fermement à la barre de fer de la vérité. Vous progressez davantage que vous ne vous en rendez compte. Si vous vous efforcez sans cesse d'obéir aux commandements, vos difficultés forgeront votre personnalité, votre maîtrise de vous-même et votre confiance aux promesses de votre Père Céleste et du Sauveur. Puisse le Saint-Esprit vous pousser à prendre toujours les décisions qui fortifieront votre personnalité et vous apporteront beaucoup de joie et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Father in heaven,
notre cher Père Céleste, avec une gratitude profonde, nous venons à toi pour te remercier du privilège que nous avons d'être connus comme tes enfants. Nous te remercions, Père, d'être notre Père. Nous te remercions pour tes tendres miséricordes que tu exerces envers nous dans notre vie, et particulièrement pour le grand plan du salut et de l'exaltation, le grand plan du bonheur pour nous, tes enfants. Nous te remercions, Père, pour les prophètes vivants, un prophète vivant qui nous guide en cette époque. Nous te remercions des messages inspirés qui ont été partagés pendant cette session de conférence générale et de la belle musique préparée pour l'occasion. Père, nous t'aimons et nous te demandons à présent de placer ta protection sur notre prophète, voyant et révélateur, de bénir les prophètes, voyants et révélateurs, les missionnaires de par le monde pour qu'ils puissent aller partager ce message merveilleux du bonheur. Nous te demandons, Père, que tu nous bénisses par ton Saint-Esprit, par l'obéissance avec exactitude, pour pouvoir aller aider ceux qui se sont égarés et ceux qui ne connaissent pas encore les vérités merveilleuses de l'Évangile rétabli. Encore une fois, nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Vous venez d'assister à une session de la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur familial de Sandy et de Draper en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.